Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma. Aujourd'hui, on va parler du film The Northman qui est sorti en 2022. Et pour ce faire, évidemment, j'ai la chance d'être avec l'excellent Thomas. Thomas que vous aviez déjà eu dans deux épisodes hors série, donc Soleil Trompeur et The Apartment, la garçonnière de 1960. Comment ça va, Thomas ?
Super, merci.
Ah ben bienvenue à nouveau dans ce podcast, hein. Je t'avais dit que t'étais le bienvenu et là tu reviens avec ce film The Northman, film de Robert Eggers. On est dans le troisième long métrage de Robert Eggers qui avait réalisé The Witch, The Lighthouse. C'est un tout jeune réalisateur, il a quoi, 38 ans, c'est un espèce de prodige d'Hollywood. Mais malgré tout, ce film The Northman avait fait un petit crash, hein, quand même au box-office, hein. Ça fait partie des films qu'on a envie de sauver. Là, on devrait créer une petite section, le justicier masqué dans ce podcast, quand on redonne un petit peu les lettres de noblesse à des films qui se sont crashés. C'est terrible, il a coûté 90 millions au bas mot et il en a rattrapé 70, donc on est clairement quand même dans un puits financier pour eux. Mais, le film est devenu extrêmement culte, il est absolument apprécié par la critique. La critique l'avait encensé, 90% de positive review, tout le monde en parle encore aujourd'hui, film qui est disponible sur Prime. Mais du coup, de quoi ça parle ce film, du coup, de Northman ?
Mais en fait, dans The Northman, on va suivre le personnage d'Hamlet, que vous connaissez certainement, puisque c'est aussi le personnage principal de la pièce de Shakespeare. Et pour cause, l'inspiration est la même. C'est-à-dire, ça remonte à un mythe danois du XIIIe siècle qui raconte l'histoire du roi Eärendil, dont Hamlet est le fils, qui se fait tuer par son frère. Et évidemment, Hamlet va chercher à se venger et à libérer sa mère que son oncle a épousée. En gros, c'est plutôt ça.
Ouais, et d'ailleurs, si vous aviez vu Le Roi Lion, c'était aussi une réinterprétation de Hamlet. Donc voilà, Mufasa, Scar et le petit Simba. Et d'ailleurs, le film fait un petit peu penser à ça, parce que bah, y a le jeune Hamlet qui voit son père se faire assassiner sous ses yeux et qui fuit. Et évidemment, c'est toujours le même twist, c'est qu'au moment du putsch, si tu veux, de l'assassinat, bah, ils pensent qu'ils ont tué tout le monde dans la famille, évidemment, que l'héritier ne reviendra pas. Et c'est toujours le truc de l'héritier qui part en exil, qui devient un homme, qui devient un guerrier, qui n'a pas tout de suite l'intention de se venger d'ailleurs, mais dont le destin va le rattraper, quoi. Et c'est pareil d'ailleurs dans ce film de Northman, au début il a un peu abandonné sa quête, hein, mais le destin se rappelle à lui.
C'est ça. C'est un mantra qui se répète pendant tout le film, c'est je vais venger mon père, je vais libérer ma mère, je vais tuer Fjolnir, qui est le nom de l'oncle dans ce film.
Exactement. Et bah d'ailleurs, c'est le moment aussi de quand même parler du casting de ce film. Casting absolument 5 étoiles. Donc Alexander Skarsgård.
Skarsgård.
Comment est-ce qu'on dit ça? Alexander Skarsgård. Avec Anya Taylor-Joy, qu'on avait justement déjà vu dans The Witch. Avec Klas Bang, qui est un acteur suédois qui joue du coup Fjolnir. Il y a même Björk, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawke qui joue le roi assassiné. C'est incroyable. Le film fait 2h10, c'est vraiment stellaire. Vraiment, le casting est vraiment très très bien. Pour ceux qui ne connaissaient pas Alexander Skarsgård, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître très très fort dans la série True Blood, quand il jouait d'ailleurs, anecdote, je marche un peu sur la section anecdote, devine comment il s'appelait dans la série True Blood. Il s'appelait Eric Northman.
C'est incroyable
quand même. Et c'est ça qui l'a vraiment fait se faire connaître. Il a joué dans l'excellent film Tarzan. Enfin, excellent, le film est moyen, mais Tarzan, il a joué le rôle de Tarzan avec Margot Robbie aussi. Et donc, bon, Thomas, pourquoi c'est un film que toi, t'as voulu amener dans ce podcast?
Alors, c'est un film qui m'a énormément marqué dès mon premier visionnage. Je pense que j'ai regardé 10 fois. Mais comme toujours avec les films que je t'apporte, il y a énormément de grilles d'interprétation. Alors, tout d'abord, moi, je suis très intéressé par la culture viking, etc. On va en parler plus tard, mais ici, on s'en prend plein les yeux. C'est vraiment une représentation épique. Épique, c'est, je pense, l'adjectif qui me vient en tête quand je parle de ce film. C'est un peu, moi, ça m'évoque des Laurence d'Arabie, des Bénures, etc. C'est vraiment des fresques historiques gigantesques avec des thèmes voilà, plus vieux que le monde, des histoires de vengeance, de vendetta, etc. Mais ici, ça nous est servi vraiment sur un plateau fantastique avec un cast de malades et on se lasse pas de le regarder.
Ouais, et d'ailleurs on le voit bien, t'as raison de citer d'ailleurs tous ces vieux films qui avaient cette particularité d'être des projets titanesques où on construisait des villes entières quasi pour pouvoir tourner en décor réel. On voit aussi que là, bah, le film a été entièrement tourné en décor réel. C'est une marque de fabrique aussi de Robert Eggers. Il aime pas trop les fonds verts, hein, clairement c'est pas son truc de faire des trucs modernes et science-fiction. Il aime bien revenir dans le passé et filmer dans des vrais paysages authentiques, des vraies forêts, des vrais trucs, et donc ça a été filmé mais en Islande, en Irlande et en Irlande du Nord aussi, pour faire la distinction. Et c'est vrai que c'est sublime. Ils ont construit le village entier, hein, donc, où se tient une grande partie de l'histoire. Le bateau sur lequel ils vont naviguer est pareil, construit aussi. Et évidemment, ils se sont entourés d'une armée de consultants, d'historiens, d'archéologues, d'experts dans le domaine, sachant qu'avec toujours cette petite limite que, bah, contrairement à des histoires plus récentes, l'histoire de l'âge viking, donc qu'on marque un petit peu... communément entre 750 et 1050, donc 300 ans de cette époque viking, ne fait pas à 100% l'unanimité scientifique, c'est-à-dire il y a toujours des points d'obscurité sur des personnages, sur une partie de comment est-ce qu'ils s'habillaient, leurs coutumes. On a des traces écrites, mais voilà, tout ça se mélange un petit peu dans un joyeux flou artistique qui fait que, bah, du coup, l'image du viking, et tu as eu raison de le dire, a été un petit peu... romantisé, hein. On mettait des vikings, tu sais, avec des tatouages et des grands dragons et des trucs, alors que c'est pas du tout ça. Et le film fait ça extrêmement bien, de remettre un petit peu l'église au milieu du village en toute non-chrétienté, quoi.
Exactement. Et quand on voit, par exemple, des séries comme Vikings ou bien God of War, par exemple, le jeu vidéo, où vraiment cette culture est comme si elle était vraiment axée sur la violence. Ici, on remet un petit peu... tout le contexte autour, c'est-à-dire il y avait une religion, il y avait une culture extrêmement raffinée. On rappelle que la poésie skaldique, par exemple, c'était une des plus élaborées d'Europe à l'époque, avec des assonances, etc. C'est quelque chose qu'on oublie souvent en mentionnant les vikings, et ici c'est vraiment montré.
Et une grande, grande spiritualité, hein. Tout est très fort ritualisé. D'ailleurs, le film le montre très, très bien. Il y a énormément de scènes, de rites, de toutes sortes d'ailleurs, hein. Le rite de passage de l'enfant vers l'adulte, des rites de l'homme vers l'animal, hein, pour à un moment donné, notre héros va rejoindre... je sais pas si c'est une tribu ou en tout cas un groupe berserker, vraiment, c'est vraiment ça, avec une espèce de communion en fait totale avec la nature. Déjà que c'était un peuple qui était très très en alignement avec la nature, mais là vraiment ils portent des peaux de loup et ils crient à la lune. Ils sont vraiment dans quelque chose où on maîtrise même les cris des animaux et des choses comme ça, avec des transformations spirituelles aussi, des connexions avec les animaux. Enfin, il y a tout ça, tout ça est montré, les différentes consultations auprès des clairvoyants, comment est-ce qu'on dit en anglais, les seers.
Les seers, les sorciers et sorcières.
Exactement. Mm-hmm.
Et par exemple, il y a plein de détails historiques, comme par exemple, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais le seer, donc c'est l'équivalent du sorcier, porte des habits de femme, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, les genres étaient très bien limités, et les femmes étaient les seules autorisées à pratiquer ce genre de sorcellerie, comme c'était... pas vraiment le rôle des hommes, et ça c'est des détails que j'ai vus après le cinquième visionnage. Donc voilà, c'est juste pour vous résumer à quel point vous pouvez découvrir des nouvelles choses après énormément de visionnage.
Il y a trois seers qu'on va voir à différents moments de l'épisode, enfin du film, mais qui sont campés par des acteurs incroyables. Donc on a Willem Dafoe dans un premier temps, qui joue un peu The Fool, oui. Qui était un peu un clin d'œil aussi aux pièces d'Hamlet. Il y avait toujours le rôle de celui qui animait un peu la galerie. Et puis il y a Björk qui vient faire un retour. Je crois que tu voulais...
Willem Dafoe qui en fait ne joue que pendant 90 secondes, quelque chose comme ça, et qui... malgré tout, nous donne une performance absolument incroyable. Donc voilà,
exactement.
grand hommage. Et il y a aussi un grand clin d'œil à Hamlet, tant qu'on parle de lui, la scène du crâne. Je ne sais pas si tu as fait le lien, mais moi, ça m'a vraiment rappelé ça. Donc il y a des clins d'œil par-ci, par-là.
Oui, ou Hamlet de Shakespeare, évidemment.
Voilà, tout à fait.
Oui, complètement. Mais le film est ultra référencé. C'est quelque chose que moi, j'adore vraiment beaucoup dans le cinéma de Robert Eggers, c'est que... il est à la fois extrêmement précis dans ses recherches préalables, il s'entoure des meilleurs, il s'est entouré aussi d'un scénariste et poète islandais, justement.
Sjöholm.
Exactement.
Que traduit ma copine en anglais.
Oh là 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 là. C'est comme dans ce podcast, on s'entoure des meilleurs. Mais et donc il est extrêmement méticuleux dans son travail de préparation, il est extrêmement méticuleux au moment de la réalisation, il est obsédé par les détails, mais il a tendance aussi à justement vouloir être tellement précis, et ça qui est une grande qualité, c'est qu'il n'en fait pas non plus des caisses. C'est-à-dire que s'il a la bonne tenue, la bonne arme, le bon objet, il ne va pas forcément le mettre toujours au premier plan pour montrer « Regardez, j'ai la bonne épée ». Bon, là, en l'occurrence, il y a une épée qui sera mise en avant, on va en parler un petit peu plus tard. Mais tout est dans le background aussi, en fait. On pourrait s'arrêter et observer la précision d'éléments qui ont l'air anecdotiques au fond du village, au fond d'une scène, etc. Il y a par exemple des scènes, ça m'a quand même vraiment étonné, où Anna Taylor-Joy est dans le background, elle est une des esclaves dans un truc qu'on voit en flou. Combien d'actrices acceptent d'être dans une scène floue alors qu'elle aurait pu totalement se faire doubler à ce moment-là par quelqu'un d'autre, tu vois, tu prends un extra, ça coûte moins cher, etc. Mais non, elle faisait le job, elle se mettait pieds nus dans la boue islandaise où il faisait -2 ou je sais pas combien, il faisait hyper froid, c'est des témoignages des acteurs. Mm-hmm. Mais au moins, ils disaient, ce qui est bien, c'est qu'on devait pas se concentrer d'essayer de jouer, de feindre le froid. On avait froid tous, tu vois, donc c'était trop bien. Et il y a vraiment ce truc où il en fait pas non plus des caisses, c'est-à-dire c'est juste, comme il travaille tellement bien à l'avance, le village, les objets, les trucs. Une fois que c'est tourné, les acteurs sont dans un...
Sont dans le bain,
sont dans quelque part un musée à ciel ouvert. C'est d'ailleurs, c'est une des phrases dans le behind the scenes. Après le tournage, si on avait laissé ce village-là, on aurait presque pu le convertir en musée à ciel ouvert pour les enfants, les excursions, pour venir visiter tout ça, tellement c'était historiquement juste, quoi. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies. Mais du coup, sans transition, la phrase, une phrase qui revient très souvent, le dilemme de ce film, je vais essayer de ne pas écorcher le mot très précisément, choisir entre l'amour pour ses proches ou la haine contre ses ennemis. Cette phrase, mon bon Thomas.
Mais oui, c'est une des nombreuses questions que nous pose ce film, surtout à l'époque viking, où la notion de destin était extrêmement importante. D'ailleurs, c'est la phrase qui vraiment pave ce film, c'est « on n'échappe pas à son destin ». Alors, est-ce que c'est vraiment le destin au sens religieux du terme? On parle des Nornes qui étaient ces espèces de déesses qui filaient le destin, ou bien est-ce que tout est dans la tête, comme on dit? Donc c'est de ça qu'il s'agit, et aussi le fait que Hamlet, le personnage principal, refuse totalement de prendre les voies de garage qui lui sont proposées pour échapper à ce cercle de violence. Parce que moi, c'est comme ça aussi que je l'ai interprété, c'est la violence qui engendre la violence et qui se perpétue depuis des générations. On parle notamment de son père Eärendil qui dit « Oui, mon grand-père a dû tuer son oncle pour avoir le trône, etc. » Mais qu'est-ce qui se passe ici? Exactement la même chose.
Oui, c'est ça. C'est aussi un des éléments que je trouve vraiment intéressant du film. C'est cette espèce de loi du talion qui ne s'arrête jamais, évidemment, puisque dès qu'on tue quelqu'un, on tue ton enfant, ton frère, ta sœur, ta femme, bah, t'as une bonne raison de te venger. Et c'est une culture aussi viking où l'honneur est très important et le droit à la vengeance aussi est respecté et respectable, mais toujours, voilà, quelle est la mesure, où est-ce qu'on s'arrête, évidemment, parce qu'avec cette loi du talion infernale, finalement, tu t'entre-déchires tous. Et c'est ça que je trouve très très malin dans le film, c'est qu'à la fin, en fait, c'est plus si clair quelle est la cause. Évidemment, on suit le personnage d'Hamlet, donc on est naturellement, parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne de spectateur, on est derrière le héros, ce qui apparaît comme le héros. Mais en réalité, il massacre un paquet de gens dans son histoire, et des gens qui ont des femmes, des enfants, tu vois, que ce soit le village au début, on va parler de ces scènes du raid du village, mais je veux dire... Il y a un paquet de gens qui pourraient se venger de cet homme-là, et ils auraient tout autant raison. Et c'est pour ça que tu as raison de mettre la surcouche destin. On sent qu'il y a ce destin qui est presque commandé par les dieux et qui lui donne presque une immunité dans sa quête. Ouais. Cultiver la haine pour nos ennemis ou cultiver l'amour pour nos proches. Mais l'un ne peut pas aller avec l'autre, il faut choisir un chemin. Et Hamlet, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a le choix en réalité?
Ben, moi, je crois qu'il a tout à fait le choix, mais bon, ça appartient au spectateur, parce que...
Et le film reste flou sur ça, c'est ça qui est beau, l'interprétation. On en discutait en off avant le podcast, on n'était pas d'accord forcément sur l'interprétation.
Oui, tout à fait. Et moi, je pense que, en fait, il a été trop loin. C'est-à-dire, il ne peut plus reculer. Il a fait tellement de sacrifices. Il a quitté cette famille de vikings qu'il a recueilli, donc les peaux de loup. Il a tout quitté pour avoir cette vengeance. Et on a une petite scène, on ne va pas la révéler ici, qui aurait pu le faire rebrousser chemin, mais il décide de tout abandonner, notamment son amour pour Olia. D'ailleurs, petit clin d'œil évidemment à Ophélia dans la pièce de Shakespeare, qui est l'amoureuse d'Hamlet, ben ici, Olia, vu qu'elle vient des pays de l'Est. Donc voilà, c'était assez fin aussi.
Ouais, complètement. Et il y a quand même quelque chose aussi qui frappe et qui est vraiment une marque de fabrique des films de Robert Deggers, c'est la réalisation. Cette réalisation très très souvent en caméra large, des plans qui sont très très larges. Il aime pas trop faire du champ contre champ ou faire vraiment des plans très rapprochés sur les visages, sauf à des moments très signifiants dans son cinéma. C'est pas quelque chose qui l'intéresse. Et par contre, il adore filmer des plans. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de comédiens, beaucoup de figurants aussi qui travaillent en arrière. La scène la plus, et avec des plans séquences évidemment. Des plans séquences, pour rappel, pour les auditeurs, c'est un plan qu'on va pas cutter ou qu'on va cutter vraiment extrêmement à des moments très 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 précis, mais on laisse pendant de longues minutes le plan se dérouler. Vous rendez bien compte qu'à chaque seconde qui passe, le potentiel qu'il y a quelque chose qui merde dans le plan augmente. Donc c'est toujours très très impressionnant, ces plans séquences. Et lui, c'est quelque chose qu'il a adoré faire dans ce film là notamment. C'est le moment de parler de la scène du raid du village, qui est vraiment le saccage de ce village par les peaux de loup, justement une des premières scènes du film, qui est la scène qui a été très abondamment mise dans le trailer d'ailleurs de la bande-annonce du film. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette scène quand tu l'as vue ?
Mais cette scène, elle est presque au début du film, et si vous n'étiez pas encore dedans, là, je pense que ça va vous convaincre. Parce que, on assiste à ce raid sauvage, mais il y a tellement de trucs dedans. Il y a aussi pas mal de clins d'œil à des vraies scènes dépeintes dans des sagas islandaises. Par exemple, quand il attrape la lance et qu'il la relance sur...
Qu'il attrape la lance au vol.
Au vol, exactement. Et qu'il la rejette après. Mais ça, c'est... Dans les sagas héroïques, c'est vraiment un événement qui se passe assez fréquemment. Quand il escalade le mur avec sa hache et puis il commence à tout désinguer. Mais c'est la scène épique par excellence. Et en plus... C'était pas obligé, mais en plus, c'est un plan séquence.
Non, c'est incroyable. Et moi, ce que je trouve super dans cette scène-là, c'est qu'ils se sont dit OK, les amis, ça, c'est hyper bankable. On va mettre ça dans la bande-annonce, parce que ça va appâter le chaland. Visiblement, ça n'a pas tellement marché. Le film n'a pas fait tous les millions qu'il espérait, mais ça a attiré des gens quand même. Mais ce qui est génial, c'est que le film ne fait que monter en puissance après ça, alors que c'est déjà une excellente scène, quoi. C'est énorme.
Exactement. Et je voulais faire un petit parallèle. En fait, le film commence avec un volcan en éruption, qui en soi est déjà un truc...
The Gates of Hell.
Exactement. Un truc assez épique et héroïque. Et en fait, à la fin, tu te rends compte, mais en fait, c'était que le début, quoi. Ça monte en crescendo jusqu'à la fin du film.
Tout à fait. Franchement, je le glisse maintenant, parce qu'on a beaucoup de choses. On avait beaucoup de choses à dire dans ce programme. La musique est incroyable. Musique vraiment, moi je me l'écoute, hein, c'est complètement épique. Hein. T'as envie de mettre de la bonne musique historique, c'est Sébastien Gainsborough et avec quelqu'un d'autre, je n'ai plus le nom maintenant, mais checkez la musique, vous tapez sur The Northman OST, Original Soundtrack, c'est un bonheur. Je sais pas, franchement, moi je me mets ça, il y a tout, il y a des percussions, ils ont repris les instruments d'époque, ils ont remixé tout ça, c'est waouh, quel boulot. Franchement, c'est probablement la meilleure composition musicale de tous les films de Eggers jusqu'à présent. La musique est toujours en accompagnement, elle est jamais intrusive, elle est jamais, mais là, elle est vraiment dans le rythme de l'action, quoi. C'est vraiment vraiment super. On arrive dans un gros morceau, mais on en a déjà un petit peu touché parce que c'est difficile de rester compartimenté, mais donc l'authenticité. Est-ce que c'est juste historiquement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dérangé, ou est-ce que tous les scientifiques et archéologues sont d'accord sur tout ça? On l'avait dit au début du podcast, mais voilà, on est sur le 10e siècle, il y a des choses, il reste des divergences d'opinion entre les chercheurs, mais moi je trouve que ce film fait quelque chose d'absolument fantastique, justement, c'est d'arriver à remettre un petit peu l'image viking telle qu'elle était, en tout cas la plus précisément possible, d'un point de vue formel comme d'un point de vue du fond. Mais toi, comment tu as ressenti ce film?
Alors, je pense qu'on peut le dire, toi et moi, on s'est bouffé pas mal de vidéos d'experts, et les avis sont presque unanimes sur le fait que c'est un travail de dingue derrière. Je pense qu'il y avait 15 experts du monde nordique constamment sur le plateau, et juste quelques petits éléments. D'abord, la prononciation, par exemple, à la place de dire Valhalla, ils disent Valhöll à la nordique. Ils disent les Valkyria et pas les Valkyries. Par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les cartons les cartons noirs où on a le nom du lieu sont en runes, et tout est donc c'est le bon alphabet, c'est des runes en futhark récent. Voilà, c'est vraiment celui de l'époque viking, parce qu'il y a le vieux futhark, et il y a pas mal de films et de jeux vidéo qui ont fait cette erreur de prendre cet alphabet là. Il y a aussi des éléments historiques comme par exemple le jeu de balle, un espèce de mix entre le hockey et la lacrosse aux États-Unis. Et bien en fait c'est un vrai jeu, c'est le Knattleikr, littéralement jeu de balle où on se mettait sur la tronche, mais c'est voilà, il y avait pas beaucoup de règles, mais ça c'est aussi un événement, un élément historique. Il y a aussi certains éléments assez fins, comme par exemple quand les esclaves arrivent, et Fjolnir dit, en parlant de Anna Taylor-Jones, celle-là, garder ses bras blancs, parce que le concept de la beauté chez les Vikings était très différent d'aujourd'hui. Donc une belle femme, c'était une femme délicate qui n'avait pas la peu bronzée, par exemple.
Et un petit peu comme dans la culture japonaise aussi, où vraiment celle qui avait de l'argent restait très très blanche, puisqu'elles avaient donc les moyens d'avoir une ombrelle, de rester à l'intérieur et tout, alors que les travailleurs et travailleuses étaient dehors et bronzaient du coup. C'est marrant parce que les codes ont complètement inversé. Maintenant, les gens payent très cher pour avoir leur bronzage toute l'année, alors que c'était pas du tout le canon de beauté pendant de longues années.
Exactement. Au tempora, au mores. Mais.
Oh là là là, quel podcast on a passé le plafond des intellos là. Oh là là.
Exactement. Mais moi, ce que j'ai adoré aussi, c'était. Les références aux sagas islandaises. Si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment de lire une saga, parce que quand on parle de littérature moyenâgeuse, on pense par exemple à la chanson de Roland qui n'est pas hyper excitante ni quoi que ce soit. Vous lisez une saga islandaise, en fait c'est pas du tout des héros sans peur et sans reproche, c'est vraiment des hommes comme toi et moi, où il y a des blagues grivoises, ils se trompent de cible, etc. Il y a des...
Ça boit, ça baise.
Exactement, c'est parce que c'était un show quoi. C'était le poète qui voulait amuser la compagnie, et il y a plein de références à ça dans le film, et notamment la scène de l'épée où, et on peut le dire, il y a un mort-vivant qui garde cette épée Draugr, et toute cette histoire de « il faut la récupérer dans un tertre, tu ne peux pas la dégainer avant telle heure, il faut que ça soit la nuit, il faut que ça soit la pleine lune, etc. » Tout ça, c'est des éléments qui existent vraiment dans les sagas. Et, petit détail, si tu te souviens de la scène de bataille avec le mort-vivant, où est-ce qu'il met sa tête après l'avoir tranchée contre son postérieur? Et c'est effectivement la meilleure façon de tuer du zombie. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, ou sinon il va ressusciter. Et donc voilà, ça c'est respecté, mais à 300%, à part un tout petit détail que j'ai vu. Apparemment, l'inscription sur l'épée, c'est du vieux foutard qui est, apparemment, c'est... le mot était prononcé d'une façon différente. Mais bon, si on veut pinailler, c'est le seul détail que j'ai trouvé.
Ah ouais, non, mais si on est à ce niveau... de pinaillage, c'est que le film a quand même largement accompli sa mission. Il y a une phrase que je vais citer de Ethan Hawke qui était vraiment qui moi m'a vraiment touché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire moi franchement dans les films tous les détails, que vraiment ce soit hyper précis, que le gars porte un tissu de ce exact matériel et pas un autre, finalement je m'en fiche, les détails finalement moi c'est pas ça, je veux qu'on me raconte une bonne histoire, je veux qu'il y ait de l'action, je veux plein de choses. Et en fait oui, peut-être c'est vrai, un élément ne fait pas forcément la différence. Mais Ethan Hawke disait, ce qui est génial, c'est qu'il y a une telle précision, et que oui, peut-être qu'un élément ne fait pas la différence, mais si vous avez 1000 détails qui ne sont pas corrects, alors vous allez dans le mur, et vous allez dans un truc auquel personne ne croit. Vous allez dans le mur parce que ça devient un nanar, ça devient un péplum un peu bizarre, où on voit des montres encore accrochées aux bras des acteurs, alors que c'est... Voilà, on en a plein des exemples dans le cinéma de trucs où les gens n'ont pas fait attention. On se souvient tous de la tasse de Starbucks qui apparaît dans une scène de Game of Thrones parce qu'ils ont été trop vite à tourner. Donc voilà, Robert Eggers, ça n'arrive pas, ça. Enfin, ça, vraiment, ça n'arrive pas. C'est, oui, c'est geek, c'est minutieux, c'est extrêmement précis, c'est peut-être non nécessaire à certains petits moments, mais c'est l'ensemble de tous ces efforts-là qui crée l'immersion totale, la magie totale. Et c'est vrai que c'est un film, effectivement, qui mérite d'être vu plusieurs fois. On ne peut pas capter tous les détails la première fois. Il faut être extrêmement attentif, mais c'est un film qui est extrêmement généreux avec son spectateur. C'est quand même assez long. D'ailleurs, le film affiche quand même 2h10, et quelque part, c'est trop court. Il y a des moments, il y a des scènes, j'aimerais bien qu'on voit plus. Notamment les scènes au début, où le jeune Hamlet est avec son père, j'aurais voulu plus de scènes avec son papa. Donc, très vite, on est dans la nuit fatidique ou la matinée fatidique. Et on a vu quelques scènes d'échange, un câlin, un discours et la scène de passation. Mais non, non, je veux en voir plus, je veux être encore plus attaché. Et malgré tout, on est directement attaché. Hein.
Ouais.
Mais même la relation entre Fjölnir avec ses enfants, peut-être qu'on aurait pu en voir plus, parce que les choses sont pas si claires que ça. Et c'est ça qui amène ce climax génial aussi, où finalement... cet affrontement, c'est les dieux qui décident derrière. C'est le destin qui décide. J'ai l'impression qu'à ce stade-là, le destin de ces humains n'est plus dans la main des humains. C'est les dieux qui décident du sort, je pense, de cette histoire, en réalité. Mmh. Parce que l'histoire, depuis le début, est une tragédie divine, mmh. dont les humains ne sont que des pions, c'est animés ça. Par la détermination, mais dont les fils du destin, on en a parlé tout à l'heure avec les Nornes, sont complètement détenus par les dieux en haut, quoi. Et c'est magnifique, il y a cette grille de lecture aussi qui rend le film à la fois... on sent que le héros a à la fois tout le contrôle sur sa vie et aucun contrôle sur sa vie en même temps. C'est fou. Mm.
Fate has no mercy.
Eh ben très bien, on arrive au bout un petit peu de cette review Northman. Je dois quand même avouer aux auditeurs que je suis tombé à nouveau dans un trou d'Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'ai revu ce film-là. Je l'ai revu deux fois pour préparer. Depuis que tu m'as dit que tu voulais qu'on le fasse, je l'ai revu deux fois, dont une fois où j'étais à, sans déconner, 30 cm de mon écran sur ma télé. J'étais les yeux mais ouverts comme une chouette. J'ai vraiment, limite, je faisais pause à des moments pour voir des détails et tout. Je t'envoyais en direct à 23h. Je t'envoyais genre, t'as vu qu'à ce moment-là, la neige, elle change de direction.
36 points d'exclamation.
Ouais, c'était ouf, quoi. Pas trop bien l'épée qui se dégaine que la nuit, c'est trop bien. Non, mais je suis obsédé à nouveau par ce film qui est passionnant et qui comme je l'ai dit, qui récompense vraiment le spectateur. Plus vous le voyez, en tout cas, l'attention que vous donnez, elle vous est rendue fois 1000, quoi. Vraiment, c'est jouissif. Ça, c'est Robert Eggers aussi, qui parfois, c'est peut-être un défaut qu'on pourrait lui attribuer. Il est tellement précis, il est tellement intello, quelque part aussi, qu'il y a des infos extrêmement importantes qui apparaissent en une ligne de dialogue. Et parfois, on aimerait bien peut-être qu'il clarifie un petit peu plus, ou en tout cas, voilà, qu'il en fasse peut-être un petit peu plus pour que les gens, au premier visionnage, puissent avoir compris tout. Mais en même temps, voilà, ça permet de garder un peu de boîte de Pandore dans ces films et de donner encore beaucoup de matière à la deuxième, troisième, quatrième visionnage de ce film. Est-ce que tu as des petites anecdotes avant qu'on termine cet épisode ?
Oui, j'en ai quelques-unes. La première, c'est une anecdote personnelle. En fait, j'ai regardé ce film, c'était fin de l'année passée. Je ne connaissais absolument rien sur la culture nordique, etc. Et bien, en fait, ça m'a poussé à faire des recherches. Et au final, je suis allé en Islande cet été, en juillet. J'ai passé tout le mois de juillet là-bas pour apprendre l'islandais. Et donc, c'est juste une petite anecdote pour dire que parfois, les films peuvent être tellement prenants qu'ils peuvent nous influencer au plus profond de nous-mêmes. Et j'ai pas ça avec beaucoup de films. Donc voilà, je voulais juste le souligner.
J'embraye directement avec ça. Moi, j'avais vu la série Vikings qui m'avait vachement attiré. Et par ailleurs, c'est l'histoire de Ragnar Lothbrok et de Lagertha. C'est juste passionnant à voir. L'acting est génial. Et en plus... j'avais été attiré par le fait que c'était la première série d'envergure avec un vrai budget créée et produite par The History Channel aux États-Unis, qui est quand même plutôt une chaîne sérieuse, scientifique, etc. Et c'était déjà révolutionnaire. Hein. La série a peut-être une petite dizaine d'années maintenant. Il y a eu beaucoup de saisons, un peu trop, je pense, de saisons. Mais en tout cas, saison 1 et 2, vous êtes vraiment dans un truc absolument captivant. Et c'est fou parce que Robert Eggers, il vient 10 ans plus tard et il vient quasi tabula rasa le truc. Alors, je dis pas qu'il y avait rien de précis dans The Vikings, mais ouais, il y avait encore toute une série d'éléments pas du tout factuels, romantisés, de l'image qu'on a du Viking, de si on vous dit à Halloween, vous allez vous habiller en Viking, vous allez faire toute une série de choses.
Le casque à cornes.
Voilà, exactement.
Qui est apparu au 19e siècle avec Wagner.
Exactement, le bracelet dragon avec des tatouages partout. Non, non, non. Pas du tout. Et donc, c'est super pour cet élément-là, quoi. T'avais une deuxième anecdote.
Oui. Le savais-tu, Martin ? Ethan Hawke a déjà une certaine expérience avec Hamlet, puisqu'il a joué dans le film éponyme en 2000, avec une version moderne d'Hamlet qui se passe à New York. Voilà. Petit clin d'œil.
Je ne savais pas ça.
Oui.
Eh bien, je te sur-anecdote avec Björk qui avait décidé de ne plus faire de cinéma du tout. Mais quand elle a vu le projet de Eggers, elle a complètement été enthousiasmée. Elle a un petit rôle, effectivement, de Sears, mais elle était complètement à fond et elle a beaucoup contribué au costume aussi. Elle a donné des indications sur ce qu'elle pensait être elle voulait un troisième œil, donc il y a une espèce de petit coquillage qui apparaît au niveau du front. Enfin, si vous regardez, vraiment, faites pause. Le costume, vraiment, porté par par Björk dans cette scène est juste sublime, avec notamment des coquillages qui arrivent au niveau des yeux, qui fait qu'en fait on ne voit pas ses yeux, puisqu'il y a des coquillages ou des perles blanches, il y a quelque chose qui apparaît, c'est génial. Donc, petite anecdote de Björk à nouveau, et autre anecdote aussi, à la fin, la Valkyrie, c'est pas des appareils dentaires qu'elle porte sur ses dents, c'est des piercings dentaires, des piercings à travers les dents, et qui sont historiques aussi. On a retrouvé des dépouilles de cette époque qui avaient, c'était esthétique du coup, un peu comme dans certaines tribus, on a retrouvé des dents limées en pointe pour faire plus peur à l'adversaire, des choses comme ça, mais voilà, et c'est, quand on voit la première fois, on se dit mais c'est pas possible de faire une erreur comme ça, ils ont pris une actrice avec des appareils dentaires au 10e siècle, non, c'est des piercings de dents, faites pause aussi pour voir à quel point c'est pas très, c'est un peu flippant quoi. Ouais. T'avais encore une troisième anecdote ou on est bon?
Juste un petit clin d'œil, je pense. Je pense que tu as vu The Witch, le premier long métrage. Au tout début, quand il y a cette espèce d'initiation avec Hamlet et son père, à un moment, il regarde le sol, il pense qu'il est au sol, et en fait, il est au-dessus du sol, il est en train de léviter. Et ça m'a vraiment rappelé la scène de fin de The Witch. Je suis quasi certain que c'est un clin d'œil. Ouais. Voilà, c'est peut-être juste moi.
Et je te contre-anecdote à nouveau, Anya Taylor-Joy et Robert Eggers, ils sont amis dans la vraie vie, ils s'entendent super super bien, ils travaillent hyper bien ensemble, ils se respectent mutuellement évidemment d'un point de vue professionnel, et en fait, à chaque fois qu'il y a un projet de Robert Eggers, Anya elle veut en être quoi, vraiment, et donc, bon, elle a été dans le film The Witch, elle a été là dans The Northman, je sais pas si elle sera au casting de Nosferatu, mais probablement qu'elle y fera un petit caméo au minimum, mais elle était tout embêtée quand il y a eu le film au milieu de Lighthouse. Parce que là, Robert Eggers, il l'a appelé en disant « Bon, Anya, écoute, là, j'ai pas vraiment de rôle pour toi. Éventuellement, tu peux faire une sirène, mais vraiment, je te conseille pas. » Et elle a fait genre « Non, mais bon, quand même, bon, ça va, je comprends. Mais bon, vraiment, c'est pas cool de pas avoir de rôle pour moi et tout. » Vraie anecdote où il l'a appelé pour s'excuser qu'il avait pas de rôle dans ce film de Lighthouse. Ouais. Et donc, en tout cas, merci Thomas d'être venu avec ce film de Northman. Vraiment, c'est d'ailleurs, je te jure, c'est pas un mensonge. On peut revoir, il y a un an, j'avais publié mon top 5 de 2022. Je crois que c'était mon deuxième ou troisième film préféré de l'année 2022. Et on a de la chance, il est sur Prime, en libre accès. Donc, allez-y.
Et d'ailleurs, j'ai regardé la version française, juste pour voir un petit peu, et elle est excellente. Vraiment, avec des mots d'époque, du vocabulaire un peu moyenâgeux, etc. Donc, foncez si l'anglais, c'est pas votre tasse de thé, c'est le cas de le dire.
Non, vraiment, c'était incroyable. Et aussi, ruez-vous, voilà, sur les autres films, peut-être un peu plus difficile d'accès, je dirais. Hein. Donc, The Witch, vraiment, il faut s'accrocher. Je me souviens de l'avoir vu avec une amie à l'époque, et elle était restée vraiment perplexe du début à la fin, genre, what am I looking? C'était vraiment genre, what? Et Lighthouse, passionnant, mais à nouveau, bourré de mythologie, de références grecques, etc., et autres, et marines. Il y a plein d'interprétations aussi, à nouveau, ça peut faire un beau débat de quelle est la signification de Lighthouse. Mais vraiment, rattraper ces films-là, on sera au taquet pour la sortie Nosferatu, ça c'est sûr, dans ce podcast, ça je ne rate pas pour rien au monde. Vraiment foncez, et Robert Eggers continue de nous faire des films. Là, il a eu, on voit que les studios lui ont donné un gros budget pour ce film de Northman, mais j'espère que les studios, malgré le fait qu'il a fait perdre un petit peu d'argent aux studios, continuent de lui faire confiance. On a besoin de réalisateurs comme ça, un peu à l'image de Ari Aster aussi dans le Elevated Horror, Midsommar, des Hereditary et tout ça, Beau is Afraid, dont on avait parlé dans le podcast. Ces deux-là, ces deux talents de dingue à Hollywood qui sont complètement en marge. C'est un peu cette nouvelle vague un petit peu elevated de genre pourtant qui existe déjà depuis longtemps. Ils sont incroyables. En tout cas, merci Thomas. Et puis, comme toujours, tu es le bienvenu à chaque moment si tu as des films comme ça qui te pètent dans le front, dans lequel tu meurs d'envie de parler dans ce podcast.
J'y manquerai pas.
Et on sera super content de te retrouver.
Merci beaucoup.
À ciao, ciao, les amis.
Ciao, ciao. I cannot escape my fate.